Eh bien, frères et sœurs, je voudrais vous saluer tous et toutes dans le bon nom du Seigneur Jésus. Amen. J'espère que vous êtes heureux ce matin d'être là dans la maison de Dieu. Moi, je suis heureux parce que c'est un très vieux souvenir que j'ai en venant ici. En effet, il y a à peu près une vingtaine d'années, vous aviez acquis ces locaux et il y avait un culte de reconnaissance. Et à l'époque, j'étais responsable de la région pour les églises baptistes et je suis venu prêcher là. Et je peux même vous dire que je me suis souvenu de ce qui est rare de la prédication. C'est quand Jésus invite ses disciples à monter dans la barque pour traverser la mer. Et il y a eu la tempête. Et je disais, arriver ici, c'est monter dans la barque et c'est prendre des risques, il y aura des tempêtes. Et je suis sûr, bien que je ne connaisse rien du tout maintenant de l'Église, mais je suis sûr qu'il y a eu des tempêtes. Mais le Seigneur a toujours été là. Il est toujours là. Amen. Alors, merci mon frère. Si vous regardez sur Facebook, vous verrez que votre pasteur a voulu mettre un titre pour la prédication de ce matin. Et il a pris, et je lui ai dit, c'est moi qui lui ai dit hier soir, ces paroles qu'on trouve dans une parabole, insensée, aujourd'hui même, ta vie te sera redemandée. C'est dans cette parabole que je voudrais partager avec vous. Mais avant, vous savez que Jésus a beaucoup utilisé les paraboles. Et je pense qu'il y a bien une trentaine de paraboles dans le Nouveau Testament où Jésus va utiliser l'image de la vie pour nous enseigner des choses authentiques pour nos vies. Et cette parole que Dieu prononce dans la parabole au sujet du cultivateur qui se croit fort, etc. Elle arrive au milieu d'un moment où Jésus est en train d'enseigner des choses importantes sur le royaume de Dieu. Dans Luc au chapitre 12, je prendrai le temps de relire tout le chapitre, vous verrez que Jésus leur parle du levain des pharisiens. De ces gens qui en apparence sont des super religieux et Jésus les a souvent titillés, n'est-ce pas, en leur disant c'est pas l'extérieur qui compte, tout compte fait. Et puis après un peu plus loin il donne un autre avertissement disant s'il arrive qu'ils en veulent à votre corps n'ayez pas peur, c'est pas eux que c'est pas ça qui est dangereux. Ce qui est dangereux, c'est d'être mort spirituellement, c'est d'être mort loin de Dieu. Et même il y a un troisième avertissement que Jésus va donner. Il dit si tu crois en moi et que tu ne veux pas me confesser devant les hommes. Eh ben moi je te confesserai pas devant le Père quoi. On peut pas dire qu'on aime le Seigneur si on cache sa foi. La foi se voit, la foi se partage. Notre confiance en Jésus-Christ, elle doit être vue parmi tous les hommes. Et alors que Jésus est en train de rappeler ces vérités importantes, tout d'un coup, un homme vient voir Jésus. Et un homme vient voir Jésus et lui dit, Maître. Fait quelque chose pour que le partage de nos biens soit le meilleur. Si vous voulez, cet homme, c'est pas une démarche inconsciente, parce qu'à l'époque de Jésus, quelqu'un comme Jésus qui était reconnu comme un seigneur, eh ben, pour cet homme, entendant le discours de Jésus, enfin, connaissant Jésus, pardon, il s'adresse à lui comme un maître. Mais ça veut dire quand même qu'il n'a pas beaucoup écouté, hein, ce que Jésus vient de dire dans ce long discours sur les différentes attitudes qu'il faut avoir dans nos vies. On se demande si parfois on n'est pas un peu comme ça. On écoute la parole, non, on n'écoute pas. Et tout d'un coup surgit cette question que Jésus pose, que cet homme pose à Jésus. Et Jésus va refuser d'entrer dans ce discours. Jésus lui-même va refuser de se laisser entraîner dans le domaine terrestre. « Mon royaume n'est pas de ce monde », a-t-il dit à ses disciples. Et, il est possible que cet homme qui fait la demande, là, elle apparaît logique à ses yeux. Il est probablement le cadet de la famille. Et comme à l'époque, c'est les aînés qui ont tout pouvoir sur l'héritage, vous voyez. Donc, mais il n'a pas écouté ce que Jésus était en train de lire. Alors, je vais relire quand même la parabole pour chacun de nous. C'est donc dans Luc 12, comme je vous l'ai dit. Et on va lire à partir du verset 16. Alors, quelqu'un dit à Jésus au milieu de la foule, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi mon héritage. » Jésus lui répondit au homme, « Qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages ?» Puis il leur dit, « Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, serait-il dans l'abondance ?» Et il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même, disant, « Que ferais-je ? Car je n'ai pas de place pour rentrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve, pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dira, Dieu lui dit, pardon, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui sera-ce ? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. » Nous allons prier ensemble, si vous voulez bien. Seigneur, merci pour cette parole. C'est vrai que nous avons besoin de l'onction de ton esprit pour que cette parole pénètre nos cœurs et change nos cœurs pour la gloire de ton nom. Amen. Frères et sœurs, dans cette parabole que Jésus va citer, souligne le fait que la richesse peut être un obstacle pour le royaume de Dieu ? Pas du tout. Non, pas du tout. En d'autres occasions, il va le faire d'une façon plus précise, mais là, il va démontrer quelque chose concernant l'attitude insensée de cet homme. Et parfois, ça peut être aussi notre propre attitude. Nous sommes insensés vis-à-vis de la parole de Dieu. Et parlant de la richesse, Martin Luther King a dit ceci, « Rien dans la richesse n'est essentiellement vicieux et rien dans la pauvreté n'est essentiellement vertueux. » Comme quoi, nous n'allons pas nous laisser troubler par le problème de l'argent, mais nous allons essayer ensemble, frères et sœurs, d'écouter ce que le Seigneur a voulu dire à cet homme qu'il avait interpellé. Et en fait, dans cette parabole que Jésus cite à cet homme qui vient le voir, Jésus va simplement montrer le caractère particulier de l'avarice. Et quand on parle de l'avarice, je pense, peut-être que vous l'avez vu, le film de Funès, n'est-ce pas, là-bas, celui qui est en train d'amasser, n'est-ce pas, hein, Monseigneur, il est l'or, n'est-ce pas, des montants. C'est ça l'avarice, tout compte fait, cette espèce de... Et je pense que là, le Seigneur vraiment a voulu montrer que, en fait, Jésus ne dépeint pas cet homme qui est là devant lui comme quelqu'un de mécréant ou d'une façon, non, pas du tout, mais Jésus va montrer quelque chose d'extrêmement important. Je crois que son avarice ne paraît détestable, en fait. Elle n'apparaît pas comme vraiment détestable. C'est une situation humaine, pourrions-nous dire. Je crois que, en fait, quand Dieu dit à cet homme qu'il est insensé, c'est que cet homme confond le but de la vie et les projets pour vivre. Est-ce que nous arrivons à faire la distinction? Les buts de la vie et les moyens pour vivre. En fait, vous l'entendez, que ferais-je? Car je n'ai pas où je puis rassembler mes fruits, dit-il cet homme, et voici ce que je ferai, j'abattrai mes greniers, je bâtirai plus grand, et j'y rassemblerai tous mes produits. Pour cet homme, l'organisation de sa vie économique est supérieure à sa vraie destinée. Je crois que, pour nous rappeler que nous fonctionnons sur deux modes. Il y a, sur le plan intérieur, ce qui exprime l'art, la morale, la littérature, la philosophie, la religion. Et puis, il y a le plan extérieur qui, lui, concerne tout ce que nous projetons pour notre avenir, pour nos projets, pour les techniques que nous allons employer, enfin, tout ce qui va nous permettre de vivre. Et je crois qu'il y a toujours un danger quand nous permettons aux moyens par lesquels nous vivons de submerger le vrai but de la vie. L'homme riche est insensé parce qu'il n'a pas mis une ligne de démarcation entre les moyens pour vivre et le but de sa vie. Sa vie est submergée par les vagues des moyens d'existence. Alors, bien entendu, les choses extérieures ne sont pas à négliger. Jésus sait bien que nous avons besoin de nourriture, et de vêtements et de moyens de locomotion, et de ses biens. Et il le dira lui-même, votre Père céleste sait de quoi vous avez besoin. Mais en fait, Jésus sait bien que l'homme est autre chose qu'un animal qu'on nourrit, qu'on soigne, qu'on... Non, et cet animal qui meurt. Cet homme n'a devant les yeux que des biens matériels et passagers, c'est vrai. Et il en attend le bonheur, tout compte fait. Mon âme, tu as beaucoup de biens pour beaucoup d'années. Repose-toi, mange, bois. Il fait bonne chair. On pourrait dire que c'est un véritable épicurien, n'est-ce pas, qui ne pense qu'au bien-être, bien manger, bien vivre. Ça me fait penser à l'époque de Noé, vous vous souvenez, hein? Au temps de Noé, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient, et ça mariait leurs enfants jusqu'au jour où le jugement de Dieu s'est abattu. Alors, il faut bien admettre qu'aujourd'hui, des millions et des milliards de gens vivent un peu avec cette obsession avoir plus. Et je crois quand même qu'il nous faut bien être au clair là-dessus et apprendre-nous le danger d'être plus ou moins saisis par cet esprit tout compte fait. Nous ne parlons peut-être pas aussi crûment à notre âme en disant « Réjouis-toi mon âme !» Mais en fin de compte, nos actes manifestent souvent ce même langage tout compte fait. Ce cultivateur n'est pas capable de penser aux autres. Son esprit est fermé à la dimension spirituelle de sa vie, de son vrai destin. Et la conséquence, c'est une deuxième conséquence qu'on trouve chez cet insensé, il n'a pas conscience qu'il dépend des autres. Cet homme, dirions-nous, est un égocentrique, narcissique. J'espère qu'il n'y a pas de psychologue parmi nous. Hein. Si, il y a un peu... J'ai mal défini le personnage. Non, enfin bon. Excusez-moi. Et il fait référence à lui-même. Et remarquez, il le fait référence sur 10 citations de lui-même qu'il va faire. Le jeu, le mot, il le répète 10 fois dans cette parabole. Hein, c'est bon. Et son style de vie, c'est vraiment un style égocentrique, visible dans l'idée de stocker tout mon brin, tout mon bien, tout ça, c'est pour moi. Il ne partage avec personne, hein, pour le moment. Et il ne vend pas à ceux qui en ont besoin. Non, non. Il est trop malin. Parce qu'il va le garder, il va attendre que le cours monte. Comme ça, il pourra le vendre plus cher. Vous voyez l'image du monde d'aujourd'hui, hein? Les riches qui gardent pour que ça monte. Hein? Ah, voilà. À mon âme, tu as beaucoup de bain en réserve pour de nombreuses années. Et encore là, une dernière chose que j'ai relevée, que nous voulons relever, c'est qu'il raisonne, cet homme, comme s'il était le seul à accumuler ses richesses. Il est incapable de dire « nous », incapable de saisir que sa richesse privée était le fruit d'une richesse publique. Il parle comme s'il était le seul à labourer, à semer, à moissonner. Et comme notre monde est proche de ça, là aussi, et combien il nous faut faire attention de ne pas nous laisser saisir par ces façons de raisonner. Il n'a rien compris, cet homme, de cette réalité. Nous sommes dépendants les uns des autres. Et si j'osais dire, même dans la vie de l'Église, nous sommes dépendants les uns des autres. Dieu a donné différents dons. Le Seigneur a donné différents dons, c'est pas pour rien. C'est pour que nous les partagions, que nous les vivions. Et si nous grandissons dans la foi, c'est parce que d'autres ont été persévérants, parce que d'autres ont enseigné sa parole, nous ont enseigné sa parole. Si nous sommes aujourd'hui riches dans le Seigneur, c'est pas tellement seulement à cause de nous, c'est parce qu'autour de nous, il y a une foule de témoins qui nous ont aidés à saisir les vérités essentielles de Jésus. Alors, souvenez-vous, Église de Charleville, vous n'êtes pas seul à venir au culte et dire merci Seigneur, vous êtes une communauté. Une communauté qui doit toujours se réjouir de ce qu'elle possède et le partager. Le partage est important. Alors, voilà la petite parenthèse qui m'était venue à cœur. Ce cultivateur croit que vivre et prospérer dans son petit monde, centré sur sa propre personne, c'est ce qui donne le bonheur. Ce n'est pas vrai. Le vrai bonheur, c'est le partage avec les autres, avec ceux qui ont faim et soif, avec ceux qui sont dans la détresse, avec ce que Dieu nous a donné dans l'Église. Et la troisième chose que je relève concernant l'homme insensé, c'est qu'en fait, il n'a pas non plus conscience qu'il dépend de Dieu. Ça, c'est plus grave, hein. À la limite, on peut être narcissique, égoïste, mais là, il raisonne comme si c'était lui qui assure la saison, la pluie, le soleil, la richesse de son terrain. Et je pense qu'aujourd'hui, l'homme, dans sa folie d'indépendance, eh bien, a déstabilisé ce que Dieu avait créé. C'est ça qui est terrible. Cette folie qui prend l'homme pour centre finit toujours, toujours par un désastre. Il y a deux idées, à mon avis, qui ont façonné notre monde actuel. La première, c'est qu'elle soutient que toute réalité peut être expliquée. On peut tout expliquer. L'homme, un accident transitoire de protons et d'électrons. Et je me souviendrai toujours de cette image que j'avais entendue quand j'étais jeune, et je l'ai retenue parce que un prédicateur qui l'avait donné, il disait, peut-être vous les jeunes, vous n'avez pas connu, mais les montres fonctionnaient avec toute une série d'engrenages et de ressorts. Hein, et tout ça, ça fonctionnait magnifiquement bien. Et il disait, ben, cette montre, tu la prends, tu prends tout son système, tu le jettes en l'air, hop, tu mets la gousse et la montre retombe dedans et elle est refaite complètement. C'est l'utopie, hein? Bon, y a des gens qui pensent un peu ça, la rencontre d'électrons. Ou alors, il y en a d'autres qui... Une autre position, bien sûr, c'est l'homme qui serait le résultat du règne animal vers la réalité humaine. Croire que l'homme serait comme ça devenu quelque chose qui est le résultat d'une évolution. Bon, de singe qui descend de l'homme, enfin bref, non, l'homme qui descend du singe. L'homme qui descend du singe. Ou alors, j'avais entendu aussi une autre proposition, c'est plutôt venant de la mer, le poisson qui s'approche et qui petit à petit perd ses nageoires pour qu'apparaissent des pieds, des mains, enfin bref. Bon, ça, ce sont toutes des suppositions. Hein? Souvent, on prend tout ça pour des vérités, mais ce n'est pas des vérités, c'est des probabilités. Tandis que la parole de Dieu nous dit que Dieu a créé toutes choses. Alors que ce soit en 24 heures ou en 1000 ans, moi, Dieu est tout puissant. Hein, donc, quand il veut, comme il veut. Et puis, il y a une autre tentation qui est aussi une tentation terrible, c'est rendre Dieu inutile. Et en fait, de montrer que l'homme est Dieu. Genèse, hein? Vous serez comme des dieux. Vous serez comme des dieux. Et cette idée a été développée, bien sûr, que l'homme était capable de se gérer lui-même. Et des grands penseurs ont écrit beaucoup de choses. Je pensais à Nietzsche ou à Marx ou à Freud. Et bien sûr, les philosophes y sont mis. Je pense que vous savez que Jean-Jacques Rousseau a une parole que beaucoup prennent en disant « la nature humaine est bonne ». Et le mal ne se trouve que dans les institutions. Ouais, réfléchissez. Il est interdit d'interdire. Si la pauvreté et l'ignorance disparaissaient, disait-il, tout serait parfait. Voilà, on est dans un monde qui vit avec toutes ces idées qui naviguent entre une création qui est l'évolution ou alors l'homme qui est capable de se gérer lui-même. Et même la science va pousser dans ce sens-là. L'homme peut être comme un dieu. Il est capable des meilleures inventions comme des pires, bien sûr. Et je crois que ce cultivateur me rappelle bien tout ça. Il pense que voilà, c'est grâce à lui que ça pousse, c'est grâce à lui qu'il moissonne. Tout va bien, je suis capable de construire des maisons et d'agrandir. Alors, je pense qu'il nous faut bien constater que, riche en biens et en ressources, notre civilisation a occulté de vrais buts de la vie. Être en communion avec le Seigneur. C'est ça qui nous fait vivre, frères et sœurs. Et j'espère que tous ceux qui sont là ce matin connaissent la richesse de cette communion avec le Seigneur, qui est le vrai but de la vie. Qui est le vrai but de la vie. Alors, c'est vrai que les hommes ont appris à voler comme les oiseaux, à nager comme les poissons, à explorer l'univers, à maîtriser certains éléments de la terre. Et à force de tout cela, bien, toutes ces idées ont poussé l'homme à proclamer son indépendance vis-à-vis de Dieu et des autres. Il faut bien reconnaître que l'abondance n'a pas apporté la paix de l'esprit ni la sérénité de l'âme. La science ne peut donner que la puissance physique et elle conduit à la catastrophe. Sans la soumission à Dieu, nos efforts ne produisent que des cendres, disait quelqu'un. L'homme riche est tellement préoccupé par son bien-être qu'il en oublie Dieu. Mais, Dieu ne l'oublie pas. Dieu n'oublie pas nos vies, Dieu n'oublie pas ce que nous faisons, Dieu n'oublie pas tout ça. Insensé cette nuit même, ton âme te sera redemandée. quoi que l'homme dise à son âme, Dieu la lui redemandera de manière soudaine, inattendue. Cette nuit-là, il n'avait pas compté là-dessus, cet homme, dans la parabole. Non, c'est vrai. Et dans la multiplication de ses richesses, il en a complètement oublié Dieu. Et en fait, il ne découvre son erreur que trop tard. Aujourd'hui même, quel contraste, n'est-ce pas ? L'homme riche, il dit, ah, beaucoup d'années, je vais pouvoir profiter de tout ça, c'est formidable. Et Dieu qui lui dit, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Ça, c'est le langage de Dieu, aujourd'hui même. Salomon, dans sa grande sagesse, a dit, ne te glorifie pas du jour de demain, car tu ne sais pas ce qu'un jour enfantera. Jésus a dit à peu près les mêmes choses, souvenez-vous. À l'inverse, cet homme riche considérait demeurer encore longtemps ici-bas, et pour lui, ça allait de soi. J'ai bien gagné ma vie, tout va bien. J'ai évolué dans ma situation, peut-être pensez-vous, je suis devenu cadre supérieur. Et Dieu, où est la place de Dieu dans ta vie? Et l'homme riche, il avait construit tous ses plans sur ses richesses, mais c'était un mauvais calcul. Ça me fait penser à cette autre parabole où il nous a dit que le fou sur le sable a bâti sa maison. Et bâtir sa vie sur des choses uniquement matérielles, de richesse, c'est construire notre vie sur le sable. Et la tempête arrive, et quand la tempête de Dieu fonde sur l'homme, il ne reste pas grand-chose. Et je crois que il faut savoir tirer la leçon de la folie de cet homme cultivateur. Le fait qu'il meure physiquement, c'est pas ça qui est le plus grave. C'est qu'il est déjà mort spirituellement. Si Jésus-Christ n'est pas ton sauveur, quelles que soient les richesses que tu possèdes, tu es déjà mort. Spirituellement, il n'y a plus de contact possible avec le Créateur. L'arrêt de la respiration, l'arrêt de la respiration est le signe attardé d'une mort intérieure. Quand tu meurs physiquement, si tu n'as pas réglé ta vie avec Jésus-Christ, tu es déjà mort spirituellement. Et la mort spirituelle, c'est passer l'éternité loin de la présence de Dieu, dans les ténèbres, dans la solitude. C'est ça la vraie mort. Plus rien. Plus rien. Alors, il faut bien que je conclue un peu les choses ce matin. J'aimerais dire, l'homme insensé a confondu le but de la vie et les moyens pour vivre. Ne confondez jamais, frères et sœurs, le vrai but de votre vie. Quelles que soient les circonstances, riches ou pauvres, malades ou bien portants, quel est le but de ma vie? Pour moi, c'est servir Jésus-Christ. Amen. C'est servir Jésus-Christ. L'homme insensé est un égoïste. Il n'a pas conscience de dépendre des autres. Soyons de ceux qui sont assez humbles. Pour prendre conscience qu'il y a d'autres autour de moi. Et quand dans l'église, quelque chose ne va pas, sois assez humble pour aller voir un frère ou une sœur et partager avec lui pour qu'ensemble, vous retrouviez la vraie joie. L'homme insensé n'a pas conscience de sa dépendance avec Dieu. Peut-être ce matin, tu penses que tu peux vivre sans Dieu, même si tu es là, tu dis, ben oui, je viens au culte, mais Dieu est loin de moi. L'homme insensé a oublié la réalité de la mort. Non pas seulement la mort physique, qui est un passage, poussière, tu retourneras la poussière. On ne va pas se faire d'illusions. En fin de compte, je crois que nous vivons dans un monde qui ressemble fort à ce personnage de la parabole. Et il peut arriver, frères et sœurs, que l'environnement dans lequel nous vivons finisse par influencer notre vie. Comme le lierre qui grimpe inlassablement et finit par casser son support. Le lierre, c'est une plante qui grimpe partout. Enfin, moi je l'aime assez parce que c'est une plante qui reste verte toute l'année. Mais ça ne veut pas dire qu'on va laisser pousser le lierre n'importe où, n'importe comment. Et je pense que parfois nos vies sont un peu comme enlacées dans le lierre. Le lierre pousse presque naturellement, hein, il n'y a pas besoin de... Tout d'un coup, vous trouvez dans le jardin, moi j'ai un jardin, je suis en train de faire une haie rien qu'avec du lierre, mais ça pousse tout seul. Hein. Ça pousse tout seul. Et je pensais que c'était une magnifique image. À la fois, si le lierre peut faire quelque chose de beau, mais dans nos vies, c'est pas la même chose quand même. Et le lierre le lierre cache ce qu'il va, sur lequel il va grandir. Et je crois que parfois, dans nos vies, il y a comme le lierre qui vient, et petit à petit, la certitude de l'amour de Dieu s'estompe. Peut-être c'est les années. Bon, enfin, ça fait pas mal d'années que je suis le Seigneur. Il y a eu des moments où le lierre a pris une certaine place, mais il faut savoir le couper pour laisser apparaître l'amour de Dieu pour nous. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Est-ce que c'est la certitude que tu vois encore ce matin? Ou bien est-ce que le lierre de la vie, des déceptions, des maladies, des non-réponses à la parole de Dieu, tout ça qui, petit à petit, le lierre grimpe et s'en roule. Et il arrive des moments où il faut couper. Couper le lierre. Vous connaissez pas toute ma vie, mais entre ma conversion et mon appel au Seigneur, il y a eu pas mal d'années où le lierre a poussé. Et il a fallu un jour dire, oh là là, oui, j'aime le Seigneur, oui, il est mon maître, mais je n'ai pas vécu tout à fait comme il aurait fallu. Et petit à petit, avec l'aide du Seigneur, on a coupé ce qui cachait cette réalité d'un Dieu qui nous aime. Cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Voilà, cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais il nous a aimés le premier. Alors, chaque jour de nos vies, nous avons besoin de faire un choix. Quel est mon objectif de vie ce matin? Jésus pose cette question. À quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il se perd lui-même ou va à sa ruine? Quel est ton objectif de vie ce matin? Que sert-il à un homme de gagner l'univers des choses extérieures? Voiture, maison, bonne réputation. Parce que, voilà, on fait bien les choses. S'il perd la réalité intérieure de son âme, s'il a laissé le lierre étouffer, cette bonne nouvelle qui avait transformé sa vie, savoir laisser le Saint-Esprit nous guider dans nos choix, même ceux qui nous semblent insignifiants, afin de ne pas prendre le risque de devenir insensés. Frères et sœurs, le bon choix est possible.